Radio Spirale. Le Québec et l'Amérique latine partagent beaucoup du point de vue historique, culturel et littéraire. C'est autour de ces liens que s'organisait un colloque tenu en juin 2014 dans le cadre du Festival de la poésie de Montréal. Ce premier bloc sera consacré aux institutions, leur rôle et les liens qu'ils renforcent entre ces deux espaces culturels.
Bonjour et bienvenue à l'activité du colloque du Festival de la poésie de Montréal. Alors, notre 15e édition et donc notre 15e colloque du festival aussi. Alors, c'est un peu une tradition de se donner l'occasion de se pencher sur des questions qui préoccupent donc les poètes et qui touchent la création de près. Alors, mon nom est Isabelle Courteau. Je vous souhaite la bienvenue au nom du Festival de la poésie de Montréal. Donc, bon, merci pour l'eau. Donc, merci à l'Union des écrivaines et des écrivains du Québec pour l'accueil dans la Maison des écrivains, donc au Salon Émile Nelligan. Donc, c'est vraiment un plaisir de se retrouver ici pour le colloque. C'est un peu l'endroit idéal avec l'accueil idéal. Donc, merci à Francis et à Denise, donc à toute l'équipe. Un mot pour mentionner que le colloque est enregistré sur, donc pour Radio Spirale. Ça va permettre une diffusion différée et donc dans le temps disponible sur le site de Radio Spirale. Donc, bienvenue. Alors, je vous présente Yoga Zoltan qui va être notre animateur de la journée pour ce colloque qu'il a conçu et développé. Donc, sur les liens entre la poésie du Québec et celle de l'Amérique latine. Donc, on va se pencher sur les échanges culturels et littéraires, les collaborations institutionnelles et la traduction, qui est la grande question pour terminer la journée en après-midi. Donc, nous accueillerons tour à tour Madame Minerva Margarita Villarreal du Mexique, Georges Echeverry, et Francis Chevrier, de même que Flavia Garcia, Alessandro Saravia, Madeleine Stratford et Javier Vargas de Luna du Québec. Donc, je vais remercier, avant de laisser la parole à Yoga Zoltan, je vais remercier le Consulat général du Mexique à Montréal et l'Union des écrivaines et des écrivains québécois de leur participation à la réalisation du colloque. Nous remercions aussi l'équipe des interprètes coordonnée par M. Michel Côté. Une excellente journée.
Donc, merci Isabelle et bienvenue non, à nos trois tables rondes aujourd'hui non, sur les liens entre les traditions poétiques du Québec et de l'Amérique latine. C'est grâce à la Maison de la poésie non, et au Festival de la poésie ici à Montréal qu'on a cette discussion de presque toute la journée aujourd'hui. Aujourd'hui, on va commencer avec, on a trois volets, non? D'abord, une discussion sur, comme vous pouvez voir sur la feuille de déroulement. On va commencer avec les institutions et les liens entre les institutions culturelles et le rôle que ces institutions ont joué en renforçant ces liens entre le Québec et l'Amérique latine. Et après, une discussion et une petite pause. Et ensuite, on va continuer avec les liens culturels entre les deux régions et les liens culturels qui sont un peu comme sous-jacentes, non, pour la poésie Et après le dîner, on va parler du rôle de la traduction dans cette diffusion et dans ces liens. J'aimerais dire que dans la prochaine table ronde, Margarita Feliciano, qui allait être ici de Toronto, est présentement malade, elle ne peut pas voyager. Donc, elle ne va pas être ici, mais il y a plusieurs personnes ici, Jorge Chiveri, Alejandro Saravia, moi-même, qui nous avons travaillé avec Margarita beaucoup dans le passé, donc on connaît bien son travail et on pourrait en parler à sa place. L'année passée, on a parlé des liens poétiques entre le Mexique et le Québec. Et donc, cette fois, c'est l'Amérique latine en général, incluant le Mexique et incluant aussi la Colombie, qui est le pays d'honneur au festival cette année. Mais j'aimerais juste vous lire ce que j'ai mis au début de l'argumentation, que le Québec et l'Amérique latine ont toujours eu beaucoup de points en commun par leurs histoires, leur culture et leur littérature. Nations des Amériques, ils ont traversé de nombreuses étapes semblables. Les cultures indigènes, l'arrivée des explorateurs européens, la vie dans les colonies, les rébellions, l'industrialisation, l'immigration et la lutte pour construire des sociétés nouvelles avec une identité à la fois spécifique et accueillante. Dans le domaine littéraire, le nouveau champ d'études en littérature comparée des Amériques essaie maintenant de définir les ressemblances et les différences entre les littératures du continent sur les plans de leur thématique, de leur mouvement littéraire et leurs tendances stylistiques et de leur développement linguistique. Donc ça, c'est un peu l'idée de l'ensemble des échanges aujourd'hui. Non? Les ressemblances entre les cultures et les ressemblances historiques aussi entre l'Amérique latine et le Québec. Donc aujourd'hui, on commence avec les collaborations institutionnelles. Et juste un petit mot sur ça. Les relations entre le Québec et l'Amérique latine ont été renforcées par une série d'événements et de programmes artistiques d'intérêt mutuel. Et j'ai fait une étude de ça, un peu, surtout en termes de théâtre et un peu de poésie. Et je me suis rendu compte que les liens sont pas mal plus forts entre le Québec et l'Amérique latine en beaucoup de choses qu'entre le Canada anglais et l'Amérique latine. Il semble que le Québec a surtout eu l'idée spécifique de renforcer ses liens avec l'Amérique latine et a continué à le faire en débutant dans les années 60-70 avec un focus assez développé et assez soutenu. Dans le monde de la poésie, on a vu l'établissement de résidences artistiques et de programmes d'échange pour les poètes et les traducteurs littéraires, la publication de recueils bilingues en coédition entre les maisons d'édition québécoises et latino-américaines, les anthologies de poésie nationale traduites et publiées à l'étranger, l'essor des programmes et des centres d'études canadiennes et québécoises en Amérique latine et l'étude de la littérature latino-américaine au Québec, ainsi que l'introduction des poésies des deux régions dans les festivals et les événements littéraires multilingues, et aussi les revues littéraires qui ont eu un rôle très grand en cela. Donc, les deux personnes qui vont être avec nous pour les collaborations institutionnelles sont Francis Farley-Chevrier, et Minerva Margarita Villarreal. Francis est le directeur de l'UNEC, ici. Et Minerva Margarita Villarreal enseigne à la Universidad de Nuevo León, au Mexique. Donc, j'aimerais présenter la note biographique de Francis, pour commencer. Francis Farley-Chevrier est directeur général de l'UNEC depuis janvier 2011. Il a auparavant été directeur général de l'Association pour l'avancement des sciences et des techniques de la documentation, agent expertise en exportation à l'Association pour l'exportation du livre canadien et chargé de projet à l'Association nationale des éditeurs de livres. Il est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en études littéraires de l'UQAM. Donc, Francis Farley-Chevrier.
Alors, bon... C'est bon? OK, merci. Alors, bon matin tout le monde. Merci d'être ici à la Maison des écrivains. C'est un grand plaisir de vous accueillir et merci à la Maison de la poésie et au festival de tenir son colloque ici et d'ailleurs de m'y convier. Alors, ma contribution sera quand même modeste, mais concrète, mais sûrement qu'on aura l'occasion d'approfondir, j'espère, pendant la discussion qui suivra. Alors, ce n'est un secret pour personne. Les écrivains québécois éprouvent une fascination de longue date pour l'Amérique latine. De la fureur de Mexico de Claude Beausoleil à la trilogie brésilienne de Pierre Samson, en passant par Soudain le Minotaure de Marie-Hélène Poitras, des esprits plus ferrés que moi en auraient long à dire sur les ramifications de l'imaginaire québécois dans l'espace latino-américain. Mais ce n'est pas mon rôle aujourd'hui. Les écrivains montrent la voie à suivre et les institutions ne font pas exception. Aussi, quand des auteurs se prennent d'affection pour un lieu, il n'y a pas long à attendre avant qu'associations professionnelles et bailleurs de fonds unissent leurs forces et dégagent les canaux nécessaires à la mise en place d'échanges durables. Ce sont de ces échanges que je souhaite parler, de ces échanges avec l'Amérique latine auxquels collabore l'UNEC. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais dire quelques mots du travail de l'UNEC dans ces échanges à l'international. L'UNEC poursuit un double mandat, l'amélioration des conditions socio-économiques des écrivains et la promotion de la littérature québécoise. Dans le cas des échanges internationaux, ce double mandat est pleinement réalisé. Les écrivains concernés se voient offrir une chance d'élargir leur lectorat dans un cadre où leur statut professionnel est reconnu. Cela dit, dans la plupart des échanges auxquels elle collabore, l'UNEC recherche la réciprocité. Si nous voulons faire connaître nos écrivains à l'étranger, nous voulons également connaître les écrivains d'ailleurs. C'est pourquoi nous insistons tant sur la notion d'échange. Au fil des ans, nous avons développé de nombreux échanges de résidence avec des partenaires étrangers. Citons pour exemple les échanges avec la Flandre, qui a accueilli en 2012 Corinne Larochelle alors que nous recevions Bart Van Loo, la Bavière, Chantal Neveu y a séjourné récemment alors que nous avons accueilli le traducteur Michael von Killishorn, le Portugal, André Major et João Tordo furent les écrivains qui ont bénéficié de ce premier échange il y a 3 ans. Et, plus récemment aussi, la Colombie. Nous avons reçu, dans le cadre de cet échange-là, 2 écrivains, Javier Osuna et Fadir Delgado Acosta. Et aussi, il ne faut pas oublier la collaboration avec le Mexique. Cette relation spéciale avec le Mexique remonte à 1999, alors que le CALC concluait une entente avec le FONCA pour la mise en place d'un échange de résidence d'artistes dans plusieurs disciplines, l'UNEC étant le partenaire pour la littérature. Depuis, une quinzaine d'écrivains québécois ont séjourné à la Casa del Escritor, ce qui est en fait un des partenariats les plus fructueux. Citons parmi ceux qui ont séjourné José Aclin, Pierre Desruisseaux, Hélène Rioux, Claude Beausoleil, Lynn Diamond ou plus récemment Simon Dumas. D'ailleurs, précisons que les poètes figurent en bonne place dans la liste des auteurs qui ont séjourné dans le cadre d'une résidence au Mexique. Cela dit, la réciproque demeure très importante, et c'est toujours avec soin que nous nous préparons à recevoir les écrivains que nous accueillons en résidence. Nous accueillons d'ailleurs en ce moment Diana Laetitia Delangel Ramirez, qui est ici avec nous, bonjour, ainsi que Aurelio Mesa Valdez. En vertu de notre entente avec le CALC, nous assurons la gestion d'un studio situé dans l'immeuble Rigaud, à 2 pas d'ici, face à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Ces dimensions modestes sont, je crois, largement compensées par la vue imprenable offerte sur le centre-ville et le Mont-Royal depuis le 20e étage. Diana y réside et je crois qu'elle sait. Elle confirme. Tandis que Aurelio, lui, réside dans un autre studio du CALC. Mais à l'UNEC, il ne nous suffit pas d'offrir un lieu... Pardon. À l'UNEC, il ne nous suffit pas d'offrir un lieu, si charmant soit-il, pour nous estimer quitte de notre devoir de réciprocité. Nous voulons donner à l'écrivain une expérience fructueuse, en nous assurant qu'il dispose de toutes les ressources qui lui sont nécessaires pour mener à bien le projet qu'il a mené à Montréal et en repartir avec le sentiment qu'il n'a pas seulement séjourné à Montréal, mais qu'il a fait partie de sa vie littéraire. Aussi, il est important pour nous de lui réserver un accueil chaleureux et de le soutenir dans le travail qu'il doit mener. Chaque visite est particulière. Tout dépendant de son intérêt, nous cherchons toujours à le mettre en contact avec le milieu littéraire afin de favoriser des échanges. C'est dans cet esprit que la plupart du temps, nous organisons une activité qui lui permet de se faire connaître auprès de ses collègues québécois, comme ce fut le cas hier avec les deux écrivains actuellement en résidence. Nous cherchons également à connaître leurs besoins particuliers en lien avec leur projet d'écriture et veillons à les soutenir. Par exemple, l'écrivain colombien Javier Osuna, qui a séjourné à Montréal à l'été 2012, voulait faire des recherches sur le Wendigo. Rien ne nous a fait plus plaisir que de lui présenter quelques anthropologues familiers avec le sujet. De plus, selon la période de l'année où a lieu le séjour, nous voyons comment il est possible d'intégrer l'écrivain à notre programmation d'activités. Ce fut notamment le cas avec la poète colombienne Fadir Delgado Acosta, qui a ainsi pu prendre part à l'événement que nous avions organisé dans le cadre de la Nuit Blanche à Montréal en février 2013. Nous sommes toujours heureux de voir les retombées de ces séjours. Je pense entre autres à Daniel Saldana Paris, qui avait séjourné aussi en 2012, et qui a publié, quelques mois plus tard, quelques poèmes en traduction dans le numéro 154 de la revue Estuaire. Et je pense aussi aux entrevues que ces écrivains accordent dans différents médias. Mais je crois qu'il y a encore du travail à faire. Ces échanges ne seraient pas possibles sans l'apport du calque et du fonca, mais je dois constater qu'il n'y a pas pour le moment de lien direct, par exemple entre l'UNEC et la Sociedad General de Escritores de México. Il s'agit d'une relation qui reste à bâtir et qui permettrait d'intensifier des échanges qui laissent des traces, pour les écrivains certes, mais aussi quant aux enjeux auxquels ils font face comme professionnels. Je pense aux droits d'auteur ou aux pratiques commerciales dans le domaine du livre, des sujets fort peu artistiques à première vue, j'en conviens, mais qui affectent justement la pratique de ces artistes. Mais pour revenir aux résidences, ce qui est tout aussi intéressant, c'est de voir comment le fait d'accueillir des écrivains latino-américains nous permet de mieux connaître les communautés culturelles qui vivent ici même. En effet, c'est par le truchement de l'accueil de ces écrivains que nous en sommes venus à développer une très belle collaboration avec Latinarte, un organisme qui se consacre à soutenir et à faire connaître les artistes d'ici d'origine latino-américaine. Dans le cadre de ce partenariat, nous avions accueilli ici la 5e Nuit Bohème en septembre dernier, qui a donné la parole à des écrivains de langue française et espagnole. Cet événement a aussi vu le lancement d'un numéro de la revue Helios. Rarement la Maison des écrivains fut-elle aussi débordante de gens, de mots et de musique. Et c'est vrai, franchement, la maison était pleine. Il y avait même des gens qui étaient assis dans l'escalier, tellement il n'y avait plus de place ni dans les sièges, ni dans les corridors. Aussi, je crois que lorsqu'il rend possible des moments semblables, des rencontres avec l'autre, qu'il soit d'ailleurs ou d'ici, les échanges comme ceux que nous menons à bien avec le Mexique ou la Colombie, grâce au travail précieux du calque et de ses partenaires à l'étranger, sont vraiment des occasions exceptionnelles pour tous ceux qui y prennent part, d'aller encore plus loin, des occasions d'aller encore plus loin dans la réalisation de ce que nous attendons de la littérature. Merci.
Merci Francis pour ces informations. Et on va avoir une bonne discussion après aussi, non, d'autres aspects des échanges institutionnels entre les deux régions. Maintenant, j'aimerais présenter Minerva Margarita Villarreal. Elle est née à Montemorelos, Nuevo León, Mexique. Elle a une maîtrise en littérature espagnole de l'Universidad Autónoma de Nuevo León, institution qui lui a décerné le prix des lettres, le prix des arts et où elle est professeure à la Faculté de philosophie et des lettres et directrice de la Capilla Alfonsina. Elle dirige aussi la collection de poésie internationale El Oro de los Tigres. Elle est membre du conseil de consultation de la revue Luvina. Elle a publié l'anthologie Brújula Solar, qui présente les poètes de son état natal, Nuevo León. Elle est aussi membre du Sistema Nacional de Creadores de Arte. Auteur de nombreux livres, parmi lesquels figure Perdida, prix national Alfonso Reyes de poésie, El Corazón Más Secreto, prix international de poésie Jaime Sabines, et Tálamo, prix de poésie du Concours international de littérature du bicentenaire Sor Juana Inés de la Cruz. Elle a également fait la sélection des œuvres pour des recueils de poésie de José Amelio Pacheco, De algún tiempo esta parte, et Elogio a la fugacidad, Antología poética 1958-2009. Elle a participé en tant qu'oratrice principale ou lectrice de poésie à diverses activités et manifestations académiques et littéraires au Mexique et à l'étranger. En 2011, l'Universidad Nacional Autónoma de México, basée à San Antonio, au Texas, et l'University of Texas à San Antonio, lui ont consacré un hommage pour sa carrière et son œuvre poétique lors de la troisième rencontre des écrivains Paroles aux frontières. Donc, Minerva.
Bon, merci beaucoup pour cette invitation. Et je suis très heureuse d'être ici. Et pour moi, cette maison signifie beaucoup parce que j'étais ici et chacun que je suis à Montréal. De cómo la imaginación se apoderó de una biblioteca para que, además de hacer de guardería de libros, los pariera. Se llama madrasa a la universidad en los países árabes. Hay una madrasa que solo es recuerdo en Granada, España. Es un monumento histórico que resguarda la arquitectura y el diseño, los colores de los garigoleos, de la estructura interna de unos techos que se abisman hacia el cielo, cupulares, como senos expandidos de mujer. La palabra madrasa me sugiere a una madre grande y estricta, forjadora de hombres de bien, con entendimiento y comprensión, en busca de un saber. También se parece en español a la palabra madrastra, que suena feo, despectivo, porque se trata de la madre suplente, la que es como si fuera, pero no es de hecho, la que puede ejercer todas sus inquinas contra los hijos de su marido. Los cuentos infantiles están llenos de madrastras que aseguran la búsqueda de libertad a los niños presos en las equivocaciones de su padre. Entre madre y madrastra, la palabra madraza se arroja con una novedad muy antigua. ¿Cómo puede existir un bien tan arcaico en nuestro pasado hispánico, arrojado a su límite de cascarón, de ruina, de museo donde solo puede ser exhibido? ¿Dónde quedó su saber? ¿Dónde el conocimiento en el que seguramente Ibn Arabi, Ibn Saidum, Maimónides y Espinosa participaron? Eso me fui diciendo en silencio hace unos días, después de visitar el edificio de la madraza en Granada, frente a la Capilla Real, donde se encuentran las tumbas de los reyes católicos de Carlos V y muy cerca también de la iglesia del Sagrario y de la catedral. Pues resulta que esta señora madraza, bien que nos dejó su herencia, adocenada, en términos de docenas y cientos o miles de palabras en nuestro vulgar español. No habría algazara en nuestra lengua, ni algarabía, ni siquiera doña Elvira, la hermana de doña Sol, permanecería viva en el cantar del mío Cid. Porque todas las palabras que empiezan con al o el tienen su origen en el árabe. Esto es lo que me dije. ¿Cómo puede ser que siendo el Cid el extremo campeador del castellano, tenga una hija de nombre arábigo? Esto no lo previó Isabel con sus expulsiones y sus matanzas, con sus persecuciones y su hacer de madrastra pérfida hacia los árabes y judíos de 1492, el mismo año que se descubrió América. Conquistaban un mundo, según ellos, por partida doble, América y el Al-Andalus. Una reconquista, esta última, plagada de mentira e impostura, de dominio imperialista, como sucede ahora cada vez que los Estados Unidos quieren conseguir petróleo de algún sitio. Isabel se les adelantó, pues los árabes vivían en su tierra, como miles de mexicanos viven en los Estados Unidos, cuyo suelo, antes de Santa Ana, les pertenecía. Lo que se filtra es la lengua. Lo que perdura es la lengua. La riqueza de la miseria es la lengua. Y la lengua de la miseria es la que hoy nos habla. Lo que nos inunda. Basura. Hay que preocuparse por la lengua de esta miseria que crece a pasos agigantados como los desperdicios tóxicos en el mar. Quiero decir que ahora las universidades en América Latina distan de ser madrazas, de abocarse a los textos sagrados, de preocuparse por la verdad del ser. Ahora las universidades se han replegado a un mecanismo oscurantista y macabro bajo el cual, bajo la égida de la calidad, una normatividad va cavando barrotes al pensamiento. En pro de la calidad educativa, se pondera la competitividad como saber entre los estudiantes. Los departamentos de literatura se van transformando en departamentos de lengua, pero por lengua se entiende a la lingüística en equivalencia de traducción barata. La que pide con rapidez Pizza Hut o Kentucky Fried Chicken o McDonald's para propagarse por el mundo. Ahora el fast food se cocina en nuestras universidades, porque la verdadera preocupación de los rectores es dónde van a acomodarse laboralmente los estudiantes, no qué van a aprender ni cómo van a desarrollar su pensamiento o su saber. En lugar de rectores, las universidades buscan administradores que siguen conservando un puesto que no debería pertenecerles, o bien, ellos no deberían nombrarse así. Lo que me pregunto es, ¿de dónde proviene este regreso a la oscuridad? En pro del desarrollo y el avance tecnológico, las madrazas se convirtieron en Occidente en madrastras. Y los estudiantes tienen que parar las orejas y buscar huir de este esquema imperialista que los convierte en Hansel y Gretel de la actualidad. Quiero decir, del vacío, del consumo que olvida los nombres de las personas y recuerda solo los nombres de las marcas. Porque ahora a esto estamos destinados, a vestir marcas, a ser portadores de marcas, a diferenciarnos no por lo que somos, sino por lo que vestimos o usamos o portamos, e incluso, y esto es lo más triste, por lo que alimenta o más bien llena, que no nutre, nuestro cuerpo. ¿O de qué otra manera explicarnos la creciente obesidad en el mundo? Sobre todo, bueno, yo en México, creo que ahorita somos el país. No sé si uno o dos, pero si somos el dos, le seguimos a Estados Unidos. Así es como ha prosperado todo esto. Así fue como bajo este dilema en 2009, año en que Alfonso Reyes cumplía 50 años de su deceso y 120 años de su nacimiento, me atreví a hacer algo que consideré novedoso bajo la sugerencia de mi marido. Como directora de la Capilla Alfonsina, Biblioteca Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que resguarda el acervo que a lo largo de toda su vida logró conformar Alfonso Reyes, decidí no celebrar a nuestro regiomontano universal con libros de sus libros, es decir, con ediciones nuevas de algunos de los textos que conforman los 26 tomos de sus obras completas, sino que me dije, si Alfonso Reyes fue traductor, si tradujo a Chesterton, a Mallarmé, a Valéry Larbaud, a Jules Romain, si incluso fue traductor de Homero en la más rítmica versión de los primeros 9 cantos de la Ilíada, ¿por qué no hacer una colección de libros que homenajee y destaque la labor de Reyes como traductor? Como a duras penas podemos publicar los libros, mucho menos pagar derechos a los autores o a los traductores, hicimos una colección con amigos poetas que traducen y les interesa que se publiquen sus traducciones y el permiso, cuando se puede, de los autores. Los que padecemos una lengua menesterosa, sacrificada a las exigencias del mercado, necesitamos mundo. Es preciso que entre un conocimiento verdadero. Como dice Rose Duro de Alfonso Reyes, necesitamos hacerla de passeurs, de barqueros, traer y llevar las prendas más profundas del alma, las palabras que nos permiten comprender y dar nombre a nuestras emociones, a nuestros deseos, que nos posibilitan saber de nosotros. He aquí la laguna que este tiempo se empeña en hacer crecer. No saber de nosotros mismos, que es lo que trae consigo la lectura. Entonces, los amigos poetas traductores, a la manera de Alfonso Reyes y Octavio Paz, traducen lo mejor de la poesía contemporánea y nos lo obsequian. A cambio, les damos libros como regalías. Y por poesía contemporánea entendemos no solo aquella que comprende este periplo de tiempo que llamamos modernidad o posmodernidad, que empobrece muy rápido, sino a un contemporáneo como Catulo, como Chesterton o Cavafis. Los libros se resguardan en cajas que los contienen y protegen. Estas son las cajitas. Aquí hay algunas porque yo he dejado cuando he venido a la casa del escritor. Y bueno, ahorita se las voy a mostrar con más detenimiento. El título sugieren tesoros. Hay que revalorar los libros. Esa es la intención. El título de la colección se llama El oro de los tigres y obedece a un título de Borges. Como Borges era amigo de Alfonso Reyes, fue la mejor excusa que tuve para convencer a nuestro anterior rector de hacer esta colección, porque nuestro equipo de fútbol se llama Tigres. Así, como alguna vez dijo José Emilio Pacheco, quien tradujo a Cavafis para esta colección, nuestra universidad era la única en el mundo que se había propuesto reconocer a su equipo de fútbol con una colección de poesía internacional. Habráse visto. Los volúmenes no tienen carácter venal. Es la forma como evitamos que nos demanden, porque no tenemos manera de pagar derechos. Hoy suman 20 títulos en 4 colecciones, y lo mejor de la poesía y la traducción, que no es lo mismo, pero es igual. Y bueno, pues les voy a decir lo que contiene cada tomo, porque tengo la dicha de darles a conocer que en el primer tomo publicamos a una poeta que a mí me significa mucho y creo que a ustedes también, que es Anne Berg, y fue la primera traducción en México de la obra de ella. Ahorita se los enseño. Bueno, este es el primer oro de los tigres. Y estos son los libritos. Es 4 poemas de Wallace Stevens, traducido por Teddy López Mil, que es una poeta muy, muy buena, mexicana, contemporánea. Este es Nubes, del poeta suizo Philippe Jacotet, traducido por Juan Manuel Rodríguez Tobal, español. Esta es La alcoba cerrada, de Anne Berg, traducido por François Roy. Este es Adonis, el rey de los vientos, traducido por Jorge Esquinca. Este es un separador de libros, que también vamos. Este es un libro bellísimo que se llama Muere mi madre, de un poeta japonés, que es Saito Mokichi, que ya murió hace mucho, y lo traduce José Kosser, el poeta neobarroco, el cubano que vive en Estados Unidos. Esta es una antología de una antología que hizo Slow Milos, y se llama Un libro de cosas luminosas. En inglés así se llama, y mi esposo, que es José Javier Villarreal, lo tradujo, pero además agregó, es una selección de ese libro de Milos, pero además agregó a algunos poetas que Milos no conocía de nuestra escritura latinoamericana y hispánica también. Este es Lepanto, de Chesterton, y lo traducen varios poetas españoles como Luis Alberto de Cuenca y Julio Mesanza. Bueno, ese es el tomo 1. Este es el tomo 2. Este es el poema A Lesbia, de Catulo, traducido por la poeta española contemporánea Aurora Luque, que además tiene unas traducciones bellísimas de la poesía erótica griega, de arcaica, ¿verdad? Este es Gio Boxa, que por primera vez se tradujo al español. Es un poeta maravilloso rumano, prácticamente desconocido en nuestra lengua. Es traducido por el poeta chileno Omar Lara. Este es el poema Sucio. No sé si ustedes conozcan a un poeta brasileño que se llama Ferreira Goulart. Y es un poeta extraordinario, candidato al premio Nobel en varias ocasiones. Y esta es una traducción de Paula Abramo, que es una poeta muy joven mexicana. Este es de Nuno Judice, que obtuvo el año pasado el premio Reina Sofía en España. Es El misterio de la belleza, traducido por la poeta mexicana Blanca Luz Pulido. Este es de Gottfried Benn, Morgue y otros poemas, traducido por el poeta español Jesús Munarriz, quien es el director de Hyperion. Este es de Bernard Noël, el poeta francés, El rumor del aire, en la traducción de Sara Cohen, una escritora argentina. Y este es de Gillibeck, no sé si así se pronuncia, Eugene Gillibeck.
Gillibeck.
Philippe. Es francés, es un poeta extraordinario este poeta, y el libro es verdaderamente una belleza. La traducción es de Francisco Segovia. Bueno, ahora me voy con el 3, ya me lo termino, no se desesperen. Pero de verdad que en esto se nos va la vida, bueno, a mí se me va. Es de Franck Ducrot, un poeta francés, aquí compartido se llama el libro, la traducción es de Gabriel Magaña, que es un poeta de Jalisco. Este es Tulipanes, de Silvia Plath, bajo la traducción de Paulina Binderman, una poeta argentina contemporánea. De Ledo Ibo, el poeta brasileño que murió hace un año, una antología de una antología personal en la traducción de José Javier Villarreal. Este es el Los poemas sueltos de Marina Tsvetaeva en la traducción de Selma Ancira y Francisco Segovia. Este es Cavafis, este libro para mí es una belleza verdadera porque parece escrito en español, es la traducción, la aproximación es de José Emilio Pacheco. Este es de John Donne, en la traducción de José Ruiz Rivas, que es un poeta mexicano contemporáneo. Y bueno, esto es verdaderamente un tesoro, porque es la traducción que durante toda su vida, desde 1960, pues, desde muy joven hasta que murió, hizo Tomás Segovia de el poema Dios de Víctor Hugo. Y bueno, es la verdad es una joya. Esos son nuestros, mi quehacer, yo soy directora de la biblioteca, pero con un equipo que tengo de jóvenes que fueron mis alumnos, hacemos que la biblioteca sea madre de libros, no solamente guardadora de libros. Eso es todo, muchas gracias.
Bueno, gracias, Minerva. Fascinante eso. Sí. Y qué lección.